Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En fait, tout est lié à la place de l'enfant dans la société. L'enfant, c'est pas un adulte en miniature. On le sait, les neurosciences nous le confirment, et confirment des choses qu'on pressentait depuis très longtemps. Le pouvoir d'agir, il se développe, il grandit tous les jours. On est un parent différent avec chacun de nos enfants.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Joséphine ?
Eh bien, je voulais vous parler de l'accompagnement que j'ai reçu grâce aux 1000 jours depuis la naissance de mon deuxième enfant Adam. Adam, quand il est né, était un bébé qui pleurait beaucoup. Et cela m'a énormément perturbée. Je ne connaissais pas les bébés qui pleuraient. Et lors de mon séjour à la maternité, on m'a parlé des 1000 jours. Et donc, j'ai pris contact avec les 1000 jours et j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe qui m'a aussi, c'est la première rencontre que j'ai eue avec eux, invitée à une réunion qui justement était sur les pleurs du bébé.
Qu'est-ce que ça vous a apporté déjà cette première réunion à laquelle vous avez assisté ?
Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. On était nombreux ce jour-là. Tout le monde avait ses inquiétudes face aux pleurs des bébés, donc pouvait les exprimer librement. Enfin, moi, la sensation que j'ai eue, c'était d'être écoutée tout de suite en sentant qu'il n'y aurait pas de critique sur le fait que bah, de ce fait-là, je compensais pour calmer mon enfant en l'ayant toujours au bras, qu'on m'écoutait aussi en tant que maman, la fatigue que je pouvais ressentir de ces pleurs constants. J'avais écoute, je me sentais bien dans un lieu que je ne connaissais pas, j'étais tout de suite à l'aise, pas seule. Puisque j'étais avec plusieurs mamans qui pouvaient soit venir chercher de l'information parce qu'elles étaient enceintes, soit qui vivaient la même situation que moi avec les pleurs des enfants.
Comment ça s'est passé après cette réunion pour vous ?
Cette réunion, elle a eu lieu un mois et demi après la naissance de mon fils. Et ce jour-là, sur la route du retour, je n'ai pas beaucoup de route, j'ai 5 minutes de marche, je me suis sentie légère. Ça m'avait... comme si j'avais pu vider mon... Toutes les émotions que je gardais depuis sa naissance par rapport à ma compréhension, par rapport à ses pleurs, comment je vais réagir, là, ayant pu les exprimer, entendre aussi des témoignages, entendre une personne qui était qualifiée sur ce thème-là et échanger avec des personnes, l'expression, ça serait « j'ai vidé mon sac » et repris une bouffée d'énergie, en fait.
À la maison des 1000 premiers jours, est-ce qu'ils vous ont proposé ensuite d'autres choses ? Est-ce que vous avez assisté à d'autres réunions ou est-ce qu'il y a eu d'autres formes d'accompagnement ?
Alors après, j'ai beaucoup échangé avec deux personnes de la maison des 1000 jours, Aline et Françoise, à travers des réunions avec des parents qui ont des enfants du même âge que Adam, mais aussi à travers, elles m'avaient accompagnée vers des activités. Il y a une activité lecture et comptine qui est proposée dans l'espace des 1000 jours. Donc, j'y suis allée avec mes enfants. Je les ai vus aussi à travers d'autres réunions thématiques et des petits temps forts qu'elles organisent avec des groupes de pères, aussi bien femmes enceintes. Elles réunissaient tous de temps en temps, l'histoire qu'on puisse tous échanger nos histoires, évoquer différents thèmes qui pouvaient nous venir en fait à ce moment-là.
Quel âge a votre fils aujourd'hui ?
Adam a 9 mois et mon aîné a 3 ans et demi.
Et du coup, après cette première réunion, est-ce que vous avez continué à aller régulièrement à la maison d'Émile Jo ?
J'y viens au minimum une fois par mois pour des réunions souvent en groupe de pères. Donc, les groupes de pères, c'est on est des parents qui ont des enfants à peu près de la même tranche d'âge. Donc, pour Adam, ça va de 6 à 9 mois à peu près. On essaie de, fonction des naissances, de faire des petits groupes. Mais il y a eu des mois où j'y suis allée 2 ou 3 fois en fonction de ce qui était proposé. J'ai pu faire des massages bébés avec Adam. Je peux échanger, je peux exprimer ce que je ressens, je peux échanger avec des parents qui vont peut-être vivre quelque chose que moi j'ai vécu avec mon aîné ou que j'ai vécu 3 semaines avant et dire « rassurez-vous, ça va peut-être passer » ou on échange surtout et c'est apaisant, je trouve, de pouvoir exprimer sans être jugé. Il n'y a aucune distinction sociale, aucune distinction culturelle. On est tous égaux réellement avec chacun nos problèmes, mais on peut tous les exprimer librement et accueillir les pensées, les idées, les petits conseils. C'est peut-être le seul endroit où, en tant que parent, je suis totalement bien et libre.
En dehors de ces espaces-là, qu'est-ce que vous ressentez ? Quel regard vous avez le sentiment que peut-être l'environnement, vos proches ou la société portent sur vous en tant que parent ?
On est très facilement jugé en fait à l'extérieur, y compris en famille, dans l'entourage. J'allaite mon enfant, il a 9 mois. On commence à me dire aussi bien à l'extérieur ou dans ma famille « Et tu vas encore l'allaiter longtemps ?» Bah oui, autant de temps qu'il en aura besoin et envie. Je porte mes 2 enfants, j'ai mon enfant de 3 ans et demi que je mets encore en porte-bébé dans le dos quand il me le demande parce qu'il en a besoin. Pareil, on en parle. Extérieurement, qu'on soit dans la rue ou dans un environnement, on va dire, amical ou familial, il y a toujours des petites phrases de mon temps qui viennent. Je dirais, à certains moments, si on n'est pas ce jour-là super en forme et blindé, nous mettre des doutes en nous. Et ces petits doutes, il y a des moments où, des fois, on est fatigué ou un petit doute, plus un petit doute, plus un petit doute, ça peut faire beaucoup et ça peut être des fois je dis à mon mari aujourd'hui j'ai envie de pleurer, je limite je me sens dépressive aujourd'hui, j'ai l'impression d'en avoir pris plein alors que c'est juste des petites phrases par-ci, par-là. Toutes ces petites phrases, toutes ces choses qu'on nous dit, que la société, que la famille, l'entourage, même le corps médical à un certain moment nous disent, qui font qu'on se remet en doute alors qu'on ne devrait pas, il faut qu'on s'écoute. Et c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire tous les jours.
Justement, Joséphine, comment vous faites le tri par rapport à toutes ces informations qui viennent soit de votre famille, de l'entourage ou des professionnels ? Comment vous arrivez à vous y retrouver dans tout ça ?
Pour Eddy, c'était mon premier. J'étais très à l'écoute de tout ce qu'on pouvait me dire, même si des fois je ressentais que ce n'était pas en adéquation avec ma personne ou mon ressenti en tant que mère. J'essayais un peu de suivre tous ces conseils qu'on me donnait jusqu'au jour où je me suis dit, non, il y a un truc qui... J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, j'ai un peu bifurqué en me disant, je vais plus m'écouter, je vais prendre certains conseils, mais je vais d'abord les peser dans la balance avant de les mettre en pratique.
Si je comprends bien, Joséphine, cet accompagnement aux 1000 jours vous a permis vraiment de vous réapproprier votre parentalité, d'être plus actrice de ce que vous faites et des choix que vous faites pour vous et pour vos enfants.
Tout à fait, en fait, parce que il n'y a pas de jugement, en fait. Depuis des fois, on entend des parents qui expriment des témoignages, qui me disent « Ah, mais attends, ça me fait penser que, oui, j'en ai jamais parlé, mais je me sentais un peu hésitante sur comment réagir ou est-ce que je devais m'écouter ou pas ?»
Cet accompagnement, en comparaison avec ce que vous avez vécu avec votre aîné, Eddy, quand vous voyez aujourd'hui Adam à 9 mois, comment c'était quand Eddy avait 9 mois ?
Alors, Eddy est né en 2020, 6 semaines avant le Covid, ce qui fait que Eddy a vécu en gros 1 mois, je dirais, dans la normalité d'avant. Puis après, on s'est retrouvés confinés pendant je ne compte plus les semaines. Donc, avec personne, en ayant vu vraiment personne. Et ensuite, c'est vrai qu'on était un peu isolés puisque on était à l'époque sur Paris. Les seules personnes de notre entourage qu'il y avait après, c'était mes beaux-parents qui sont assez âgés et avec une santé qui était un petit peu fragile. Donc, pendant plusieurs mois, ben, on n'a vu personne volontairement pour protéger notre entourage. Et à 9 mois, Eddie, tout à coup, a dû sortir de ce petit cocon familial pour être mis en crèche. Donc, il a commencé la collectivité à 9 mois et bah, il avait vu papa et maman donc dans un environnement un peu très cloisonné pour partir dans la grande vie de « il y a du monde ». Alors que Adam, aujourd'hui, à 9 mois, n'a jamais vécu de confinement, voit du monde tous les jours.
Mais du coup, Joséphine, vous avez l'impression que pour Eddie, ça a été difficile, du coup, à 9 mois, cette entrée en crèche, de découvrir la collectivité, de découvrir le monde.
Ah oui, oui, Eddie était un enfant qui ne souriait pas à l'extérieur. Quand on croisait même dans la rue quelqu'un qui disait « Oh, le joli bébé », on voyait Eddie qui regardait l'air de dire « Mais qu'est-ce que c'est que cet humain qui est là ? Il y en a d'autres !» Alors que Adam, ayant vu depuis ses premiers jours du monde extérieur, voit quelqu'un qui lui dit « Oh, le beau bébé », et fait des grands sourires. Il est ouvert à la société, alors qu'Eddie, même aujourd'hui, ne l'est pas encore réellement.
Est-ce que quand vous avez rencontré, alors c'est vrai que c'était une situation très particulière, le Covid, ce premier confinement, est-ce que en tant que parent, vous avez eu le sentiment d'être en difficulté, de trouver des ressources à ce moment-là pour traverser ces étapes-là ?
Je pense que si à l'époque, on avait eu l'accompagnement des 1000 jours, déjà, il y aurait eu des rencontres avec d'autres enfants sur place aux 1000 jours. Donc, il aurait pu sentir sécurisé tout en ayant une vision d'autres personnes, aussi bien adultes qu'enfants. Moi, j'aurais eu la possibilité d'échanger sur cette difficulté parce qu'on s'est retrouvé seul à l'époque face à ce problème-là. Le médecin n'avait pas de piste à nous donner, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait échanger. Il y avait, dans ma famille, quand j'évoquais le souci, on ne comprenait pas. Il manquait cet accompagnement.
C'est ça qui a fait que quand à la naissance d'Adam, à la maternité, on vous a parlé de la maison des 1000 jours, tout de suite, il y a quelque chose qui a fait écho en vous, qui vous a attiré.
Oui. Et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait avant, pendant l'étape de la grossesse, parce que j'aurais apprécié avoir cet accompagnement-là, oui.
Joséphine, est-ce que le papa d'Eddie et d'Adam aussi a été à la maison des 1000 jours ? Est-ce que les papas aussi sont accueillis, participent ?
Les papas participent aux réunions des 1000 jours, sont les bienvenus. D'ailleurs, on aime bien quand il y a des papas. Mon mari, lui, y a été 2 fois. Donc la première fois, je me souviens, il regardait, il était limite... Mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a que des mamans. Plus ce jour-là, il y avait que des mamans. Donc, il était un petit peu dans son coin, mais a compris tout de suite ce que je ressentais. Pourquoi, quand je revenais, j'étais limite super en pleine forme, prête à avancer. Pourquoi j'étais aussi... Oui, j'avais repris ma dose d'énergie. Et la deuxième fois, là, il a eu la chance d'avoir un papa à la réunion, notre papa. Et là, il était super heureux de pouvoir échanger aussi, parce que la vision du papa et la vision du maman, c'est quand même pas la même chose. Donc là, il a pu échanger sur lui, ses ressentis, avec quelqu'un qui avait les mêmes ressentis ou proche de ce qu'il pouvait ressentir lui.
Merci beaucoup, Joséphine. Je vous propose qu'on rejoigne maintenant notre experte, Nathalie Casso-Vicarini. Bonjour Nathalie Casso-Vicarini, vous êtes fondatrice, déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance que vous avez créée en 2016. Votre association rend accessible au plus grand nombre les outils pédagogiques les plus novateurs concernant le développement de l'enfant dans le monde d'aujourd'hui et permet de développer le plus tôt possible les compétences socio-affectives des enfants, base de leur développement global, par l'accompagnement des professionnels de la petite enfance et des parents, comme vient de nous en témoigner Joséphine. Vous avez également participé à la commission des 1000 premiers jours, présidée par Boris Cyrulnik en 2019. Et en particulier, vous avez coordonné le sujet du congé paternel et de la formation des professionnels de la petite enfance dans cette commission. De nombreux parents que j'accompagne se sentent perdus, ne savent plus à quel sein se vouer, qui écouter et comment agir auprès de leurs enfants. Les débats actuels renforcent parfois leurs difficultés. La surinformation génère une forme de désinformation des parents qui cherchent dans les livres, auprès des experts, des recettes magiques pour aider leurs enfants à se développer, grandir au mieux. Tout ça, comme ce podcast, est à la fois une aide, mais peut également générer des difficultés en infantilisant les parents qui pour autant ont besoin d'être pleinement acteurs de leur parentalité, à retrouver leur pouvoir d'agir parental. Qu'est-ce que ce pouvoir et comment les parents peuvent-ils le retrouver, le développer ? Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Nathalie. Tout d'abord, du coup, Nathalie, comment vous définiriez ce que c'est que le pouvoir d'agir parental ?
Merci Mathilde et merci Joséphine. Je suis heureuse d'être avec vous. C'est une grande question qui fait débat aujourd'hui dans la presse. Et si je me souviens ces moments de grande inquiétude quand j'ai mis au monde mes 3 bébés, je peux comprendre ce qui est nécessaire quand on devient parent. C'est ce qu'a exprimé Joséphine tout à l'heure très précisément et avec beaucoup de sincérité et de générosité. C'est se prémunir de ces fragilités avec le regard des autres, la pression de la société. Quand on reçoit des conseils, ça fragilise la relation avec nos enfants parce que les personnes qui nous ont donné ces conseils n'ont pas porté nos bébés et ne peuvent pas se mettre à notre place, ne vivent pas le même environnement. Le pouvoir d'agir, il se développe, il grandit tous les jours. On est un parent différent avec chacun de nos enfants. Et pour autant, on va essayer de bâtir des valeurs, une posture solide auprès de l'ensemble de la fratrie. Mais on n'est pas le même parent pour chacun de nos enfants. Et ce pouvoir d'agir, il est construit au quotidien, auprès de personnes qui vont vous faire confiance, comme la résilience. Et Boris Cyrulnik le dirait mieux que moi. Comment on construit la résilience ? Parce qu'on rencontre sur son chemin un tuteur de résilience, un tiers de confiance qui va être dans une relation honnête avec vous et qui va vous fournir de l'information fiable. Je pense que dans notre société, on a besoin terriblement d'informations fiables et cette information, elle bouge en permanence, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est le rôle de l'association, des personnes autour de vous. Et on a donc besoin de fournir aux parents, mine de rien, de l'information fiable sur des situations qu'ils vivent au quotidien. Et cette information, ils vont en faire quelque chose. Il faut leur faire confiance. Là où ils en sont, là où ils ont envie d'aller en tant que parents, dans le projet parental, projet éducatif auprès de leurs enfants, ils vont en faire quelque chose, ils vont s'en saisir et on va même la co-construire avec eux, cette information. Parce que quand on visite une maison des 1000 premiers jours, on voit ces toiles pédagogiques qu'on réalise avec les parents, avec les mots des parents, avec les photos qu'ils nous confient de leurs enfants, les dessins de leurs enfants et cette information un peu scientifique. On va évoquer quelques éléments ensemble. Eh bien, on va la mâchouiller ensemble et la partager. Mais chacun en fait quelque chose et nous, on fait confiance. Les facilitateurs sont formés dans cette posture horizontale qui n'est absolument pas descendante. Et ça, Joséphine en parlait très très bien tout à l'heure. On est formés pour dialoguer, engager pendant ces rencontres un dialogue avec les parents parce que c'est de ça dont ils ont besoin, je crois. Moi, j'ai vécu cette expérience en Australie quand je suis devenue facilitatrice il y a 20 ans. Je travaillais dans un cottage, c'est une maison des mi-jours australienne. Et quand je suis arrivée le premier jour, on m'a dit « Bon alors, tu vas t'y prendre comment en tant que facilitatrice ? Toi, tu sais plein de choses sur le développement des enfants. » Je dis « Ah ouais, bien sûr, je vais apprendre aux parents ça et ça et ça. » Puis on m'a tapé sur l'épaule, on m'a dit « Pas du tout. » Tu les as pas portés tous les bébés du groupe là, donc il va falloir t'y prendre autrement. Et là, tout d'un coup, ma propre pression s'est énormément relâchée, ça m'a fait un bien fou. Je me suis sentie légère comme Joséphine quand elle sort de la maison des 1000 jours. Et je me suis dit, mais évidemment, pourquoi on m'a formée comme ça en France ? Moi, j'ai besoin du ressenti des parents, de leurs interrogations. C'est à partir d'eux
et à partir de l'observation des bébés qu'on va construire ensemble une réponse.
Et là, oui, parce que la réponse est singulière à chaque fois en fonction du parent, du bébé. Et là, vous nous dites bien, Nathalie, voilà, que cette information, c'est la première pierre, mais c'est comment on accompagne les parents ou comment on permet aux parents de s'approprier cette information, non pas comme un dogme, il faut faire comme ça, mais comment avec cette information, on va ajuster la réponse juste pour soi et pour son bébé.
C'est exactement ça. Merci Mathilde d'avoir si bien résumé.
Mais ça me semble vraiment important parce que moi j'entends beaucoup de parents qui entendent bah, il faut pas laisser pleurer les bébés et puis il y a en effet ce que la science nous apporte comme information. On en a parlé dans un précédent épisode avec Héloïse Junier qui nous expliquait bah, que oui, ça a des impacts sur la production des hormones de stress, sur le fonctionnement du cerveau. Alors c'est pas tellement le pleur, c'est le fait de pleurer seul déjà, donc qui est très important. Et puis après, elle nous disait, ok, on a cette connaissance, mais il y a la réalité du terrain. C'est-à-dire bah, que parfois, on est sous la douche, on a d'autres enfants dont on doit s'occuper. Donc, son enfant peut, par moment, être confronté au fait de pleurer seul. Mais c'est comment, finalement, on va s'ajuster, répondre au mieux. Et au mieux, c'est pas forcément faire. C'est comment on ajuste autour de ça, finalement.
Exactement. Il n'y a pas faucon. C'est pas la solution, sinon on le saurait. C'est comment on va se saisir de l'information et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est vraiment ce maillon entre ce que nous dit la science, et ça bouge tout le temps, donc il faut rester en veille, c'est important, c'est notre rôle à l'association, de la science à la pratique. Quel est ce maillon-là, ce chaînon manquant, et comment les parents vont s'en saisir. Parce que c'est comme avec un enfant dans les apprentissages. Si on fait pour lui, il va reproduire, il va imiter. Ça va graver sa mémoire immédiate, mais pas la mémoire profonde. Alors que si on fait avec lui, il va apprendre. Le pouvoir d'agir, c'est très très important, parce que c'est ça qui va le guider tout au long de sa vie. Et comme le cerveau est extrêmement malléable, Héloïse l'a dit sûrement, forcément, eh bien, on a tout intérêt à faire avec, parce que c'est lui qui va se saisir au quotidien de l'information et il va en faire quelque chose. Et le pouvoir d'agir, si on fait à la place des parents, si on leur dit, voilà, il faut faire ça, eh bien, comme le disait très justement Joséphine tout à l'heure avec son premier, elle reproduit, mais elle se sent pas à l'aise. Parce qu'elle a pas intégré. Elle se sent pas maman. Or, on est maman, on est les premiers éducateurs de nos enfants, tous les jours. Si on dit aux parents, il faut faire ça, ben, c'est très artificiel. Et ils vont pas s'en saisir tous les jours. À un moment donné, ils vont se dire non, ça c'est pas moi. Je peux pas faire ça. Je me sens pas confortable et je suis pas alignée avec moi-même. Si moi je suis pas bien, mon bébé il va pas être bien.
Mais moi j'entends beaucoup de parents. Je suis pas bien, mais j'entends qu'il faut faire comme ça, que la science dit ça. Et donc là, comment? Ces informations amènent énormément d'injonctions, de pression, de stress sur les parents qui, évidemment, tous les parents veulent faire au mieux.
Tous les parents veulent faire au mieux et tous les parents aiment leurs enfants. Et pour autant, il y a des enfants maltraités dans notre société. Et ça, c'est lié à une information qui est pas digérée, que le parent ne s'est pas approprié. Et c'est justement ça qu'on discute aujourd'hui. C'est une information qu'on entend très peu souvent parce que c'est un peu un tabou. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là et comment on s'en saisit? Et la maison des 1000 premiers jours, c'est un mine de rien. Une maman qui vient, un papa qui s'assoit et qui dit, je me souviens de ce papa qui a dit, mais oh, comment je vais faire pour récupérer ma femme là? Parce que le bébé, il est collé à ma femme et j'ai plus de femme. Bon, alors, quelle information on peut partager à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est que cette symbiose, cet accordage, cette synchronicité entre le bébé et sa maman? Qu'est-ce que la maman a vécu pendant 9 mois? Tout proche, évidemment, de son bébé, et comment ça s'est passé? Puis à la naissance, c'est une rupture très violente pour une maman et un bébé. Mais comment cet accordage, il va se poursuivre? Et quand on est soi-même en difficulté, bah, comment on va tisser des liens avec notre bébé? Et quand le papa a entendu l'ensemble de ces éléments qu'on a ensemble décryptés, on a posé en fait au milieu du tapis, les informations. Et je vois Joséphine qui dit oui. Et c'est vraiment ça. On a posé au milieu du tapis l'information et puis chacun s'en est saisi avec son histoire et ses ressentis. Et puis on en a fait quelque chose. Et quand le papa est parti, d'abord, je vais vous raconter comment c'est passé. Peut-être ça a été très symptomatique, très très intéressant parce que cette maman, en effet, elle est arrivée avec son bébé qui était collé à elle et le bébé, on sentait que il avait du mal à appréhender le monde autour de lui. Et je m'étais fixée mentalement une évolution que j'aurais aimé qui arrive là dans le groupe, ça a duré 1h30. Et j'avais posé des petits jouets, des petites balles sensorielles là, entre le bébé et moi. Et je me suis dit, peut-être qu'elle va se saisir de cette opportunité pour aller explorer le monde et se détacher de sa maman. Bon, on va voir, hein, par rapport au papa, je voulais apporter des réponses au papa et qu'on en parle ensemble. Et puis, non, il ne s'est pas du tout passé ce que je pouvais imaginer, mais ce n'est pas grave du tout. Mais à la fin du groupe, qu'est-ce qu'a fait la maman? Elle m'a mis le bébé dans les bras. Et là, le papa avait un grand sourire, et tout le monde souriait, et on s'est dit, bon, ben voilà, c'est bien, on est confortables les uns avec les autres. Et c'est ce réconfort, ce confort qu'on attend. On n'attend pas des solutions, on n'attend pas des conseils, on n'attend pas des résolutions. On pose sur le tapis des éléments de réponse qui ne sont pas tous les éléments de réponse, mais qui sont certains éléments de réponse parce que c'est le groupe qui va apporter l'essentiel des éléments de réponse et on va en faire quelque chose. Ben voilà, cette maman, elle s'est saisie. À ce moment-là, c'était absolument incroyable. Moi, j'étais très, très émue parce que je ne m'y attendais pas. Et voilà, c'est un exemple de pouvoir d'agir. Cette maman, elle a saisi le fil.
Nathalie, on disait du coup, là, dans nos échanges, hein, le stress des parents face à la multitude de toutes les informations, qui est un frein, du coup, à l'autonomisation, au développement de ce pouvoir parental. Quels sont les autres freins pour vous?
Je pense que l'isolement est un frein majeur. Le Covid a laissé des traces dans nos cerveaux. En tout cas, la période de confinement, alors que d'autres pays comme la Norvège avaient décidé de demander aux parents et à toutes les familles de dresser une liste de 10 personnes qu'elles avaient besoin de voir dans leur semaine. Donc là, la Norvège, c'est un exemple de pouvoir de faire confiance et donner le pouvoir d'agir aux familles. Les familles ont pris leur décision d'aller rencontrer un maximum de 10 personnes par semaine. Elles connaissaient leurs besoins, c'est elles qui connaissent leurs besoins. Alors qu'en France, on a été confinés, ça a entraîné de très très grandes détresses. On a la santé mentale qui a été terriblement altérée. Et Joséphine donnait un exemple de santé mentale de son bébé, de son premier, qui est très, très symptomatique de cette période. Il faut ne pas trop s'inquiéter parce que le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable et que tout ça se répare à partir du moment où les parents vont bien. L'isolement est un frein majeur. On a vécu une période absolument inouïe dans notre histoire humaine.
J'ai l'impression d'ailleurs qu'on ne mesure qu'une infime partie des répercussions qu'on va encore voir pendant des années.
Absolument. Et notamment les masques portés par les professionnels et les parents face aux bébés qui ont compris, et ça s'est engrammé dans leur cerveau, que les parents et les professionnels n'avaient pas de bouche, ni pour faire un baiser, ni pour parler. Et quand les professionnels ont commencé à enlever les masques, les bébés ont eu peur. Il y a beaucoup de bébés qui ont développé des peurs terribles. Tout ça sont des éléments à réfléchir très très en amont avant de prendre des décisions politiques. Donc l'isolement est très important et particulièrement dans cette période extrêmement fragile qu'est la naissance d'un enfant. Elle résonne encore en nous 50 ans, 60 ans, toute la vie. Après la naissance d'un enfant qui s'est pas toujours passé comme on l'aurait souhaité, au Moyen-Âge, il y avait ces 40 jours de relevailles où pendant 40 jours, la maman était l'objet de toutes les attentions de toute la communauté. On venait la saluer, la féliciter, l'entourer. Et Boris Cyrulnik, que je cite toujours, dit quand on entoure la maman, les parents, la famille, d'une niche sensorielle qui va permettre à ce milieu-là, d'agir sur son milieu qui est l'enfant, eh bien, on va sécuriser, évidemment, la relation avec le bébé. Quand la mère est sécurisée, quand le père est sécurisé, quand la famille est sécurisée, le bébé va développer son plein potentiel. Et puis, vous parliez du stress. On est quand même dans une période inouïe dans l'histoire de notre humanité où le numérique prend une part absolument considérable, où les enfants sont plus experts que leurs parents parce que c'est très intuitif et que ça active le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc c'est addictif. Et les parents se laissent prendre au jeu. Et ça, c'est un sujet qu'on met beaucoup sur le tapis régulièrement à la maison des 1000 premiers jours. Comment s'affranchir et garder notre pouvoir d'agir face à ce monde du numérique qui nous envahit partout. Il y a des écrans partout, dans le métro, dans la rue. On a 4 à 8 écrans dans chaque famille en moyenne dans notre société française, mais aussi dans quasiment toutes les sociétés, dans tous les pays du monde. Et comme c'est addictif, eh bien, on est très vite impliqué avec nos écrans en tant que parents et on reste des modèles pour nos enfants. Donc le petit panier à l'entrée, c'est bien pour déposer tous les écrans de la famille, parce que la relation humaine, c'est ce qui fait grandir l'humanité. Et malheureusement, on en a terriblement manqué, notamment pendant la période de confinement où on était parfois en face de nos écrans parce qu'on se sentait très isolé et qu'on avait besoin d'interagir avec les autres, mais au travers d'un écran. Alors, c'est mieux d'interagir avec les autres grâce à un écran. Ça nous a aussi beaucoup aidé à être en lien avec les grands-parents et la famille et les amis. Mais
ça ne remplace pas le lien.
Mais ça ne remplacera jamais le lien. Et on sait pourquoi. Il y a plus de 700 études internationales qui décrivent cet impact de la surexposition aux écrans dans la vie des individus. Donc c'est important, là aussi, de garder son pouvoir d'agir et de le renforcer face au monde qui évolue et qui change très, 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 très vite.
Oui, et puis il y a cette question des impacts des écrans sur les enfants et leur développement. Ça, on en entend beaucoup parler, même s'il y a encore beaucoup d'informations à transmettre et aider les parents à s'approprier ces informations-là. Mais on entend, je trouve, moins parler de l'impact sur le parent lui-même. Et là, je pense à la dimension aussi de la fatigue.
Oui.
Du sommeil.
Absolument. En fait, l'écran avec la génère, parce que c'est la lumière bleue qui est au travers de l'écran, génère dans le cerveau, donne un signal au cerveau que on va pas s'endormir parce que forcément le parent, il va regarder sa petite série préférée, il va continuer à répondre à des mails très tard ou à travailler, et là. C'est un des freins majeurs dans notre société, c'est où s'arrête, et j'en sais quelque chose, où s'arrête notre travail et notre fonction professionnelle, et où commence notre vie privée. Un parent, il faut qu'il fasse ça lui demande des efforts importants de laisser l'écran de côté. C'est pour ça qu'on voit à quel point c'est addictif de laisser son écran de côté, de se dire « là, je suis avec mes enfants ». Je souhaite un temps de qualité dans la relation avec mes enfants. Donc, je vais laisser mon écran. Mais ça demande un effort, C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup vis-à-vis des parents. Et je vais interagir avec mon enfant. Et c'est pas au travers d'un écran que la qualité de la relation va permettre à mon enfant et à notre relation de grandir.
Tout à l'heure, vous nous disiez, Nathalie, que les parents d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, que les enfants aussi d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être parent aujourd'hui en France ?
Alors, être parent, c'est être parent dans un environnement qui a évolué. C'est pour ça que les parents d'aujourd'hui et les enfants ne sont pas ceux d'hier. Le monde, il est là. Il y a des choses qui s'imposent à nous. On ne peut pas révolutionner ce monde. En revanche, on va pouvoir agir sur un certain nombre d'indicateurs et de déterminants de la santé globale. Et ça, c'est très, très important d'en parler. C'est ce qui fait qu'on va gagner en pouvoir d'agir. C'est cette connaissance acquise et partagée, parce que on sait aujourd'hui, et la science nous l'apprend, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On naît avec un capital génétique. Tous les enfants naissent avec un capital différent, qui est l'héritage de notre histoire, de l'histoire familiale. Et puis, on sait aujourd'hui que plus de 50% du développement d'un enfant est composé de ce qu'il va vivre au quotidien, de son environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et un certain nombre de déterminants vont s'inscrire dans l'expression de ces gènes, c'est-à-dire vont avoir une influence sur le développement des enfants, de nos enfants. Ça a une importance capitale. On peut agir sur certains déterminants de la santé globale, comme réduire le stress, savoir respirer, savoir privilégier les relations de qualité avec les moments de qualité relationnels avec nos enfants. Ça, c'est fondamental. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle l'attachement. La qualité de l'attachement noué avec nos enfants. Un enfant sécurisé va explorer le monde dans toutes ses dimensions et va être acteur sur le monde. S'il est sécurisé, et il a donc un parent sécurisé, c'est toute une chaîne qui se met en place. On peut agir aussi sur les déterminants du stress, comme les perturbateurs endocriniens, faire un choix de produits qui rentrent dans la maison. C'est aussi, voilà, quand un bébé naît, on va utiliser un certain type de peinture, par exemple, qui ne comporte pas de parabènes, de perturbateurs endocriniens. C'est des produits qu'on utilise dans la maison tous les jours et qui sont des déterminants de la santé globale. Agir aussi au quotidien pour devenir le parent qu'on a envie d'être, c'est ce rapport quotidien avec la nature. La nature, c'est le naturel. C'est la vie. Un bébé qui joue avec une brindille d'herbe, le vent passe dans la brindille, la fait bouger. Elle est humide le matin quand on va se balader sur l'herbe. Les jouets en plastique entre quatre murs ne procurent pas les mêmes sensations à un bébé et à un parent et à un professionnel. On travaille beaucoup avec la Norvège, le Québec, 70% du temps quotidien, notamment en crèche et à l'école, sont consacrés dans la nature. Parce que les expériences qu'on fait avec les éléments naturels vont procurer des sensations et vont donner des informations au cerveau qui sont bien plus riches que les expériences qu'on peut avoir à l'intérieur. Et le bébé, c'est un être sensoriel par excellence. Hein. C'était déjà le cas in utero. Et quand il naît, tout ce qu'il apprend, il va l'apprendre par ses cinq sens. C'est la voie d'entrée des connaissances. Ce sont les cinq sens. Il a besoin de toucher, il a besoin de porter, il a besoin de regarder, il a besoin d'écouter, d'entendre. Il a besoin de goûter. C'est la troisième main, la bouche.
Mmh. En préparant l'épisode, vous me parliez du fait que les enfants aujourd'hui étaient davantage myopes que ceux d'hier. Voilà, je trouvais ça vraiment intéressant.
Ouais, c'est vrai. Et ça a été accentué pendant la pandémie parce qu'on avait nos quatre murs autour de nous. On ne pouvait pas sortir longtemps. Et ça, je pense, ça a été un grand frein au développement de nos bébés. Et je pense que si le gouvernement choisissait d'autres mesures aujourd'hui, eh bien, en connaissance de cause, en lisant les études scientifiques, je pense qu'il prendrait d'autres décisions. Le bébé, pour développer sa vision, a besoin de regarder l'horizon. Voilà, il y a plus de bébés qui naissent myopes aujourd'hui qu'hier.
C'est incroyable quand même. On en entend de plus en plus parler, l'important de revenir à la terre, de s'ancrer, et que notre société est un peu hors sol. Et que ça, moi je le vois aussi dans mon cabinet, à quel point ça amène à se déconnecter de soi. Et des parents déconnectés d'eux-mêmes vont avoir des difficultés à se connecter à leur enfant.
C'est tellement juste ce que vous dites. On dit l'enfant et la nature. On parle du syndrome de manque de nature aujourd'hui. Pour illustrer ce que vous dites, en fait, l'enfant, il est la nature. C'est pas l'enfant et la nature, c'est l'enfant est la nature. On est des êtres, n'oublions pas nos origines. Et nous déconnecter du vivant, c'est nous déconnecter de nous-mêmes.
Du coup, là, Nathalie, vous nous parliez de la dimension politique.
Un peu.
En tout cas, moi, je suis toujours frappée de voir, en effet, toutes ces évolutions de la science, des connaissances, et de voir qu'il y a un tel décalage, finalement, entre ce qu'on sait et ce qu'on propose comme accompagnement aux parents. Alors, la maison des 1000 jours est un vrai exemple de ce qui est en train de bouger, mais comment on peut comprendre et appréhender ça?
Les comités scientifiques étaient composés de médecins, beaucoup du corps médical. Ce qu'on ressent, c'est que peu d'humanistes, de philosophes, de sociologues, d'éducateurs, de gens de terrain, la société civile, en fait, la santé globale, la santé sociale, aujourd'hui on peut parler de santé sociale, c'est vraiment le cœur du métier de l'association. La santé sociale, elle est composée de multiples compétences. L'intelligence collective est extrêmement importante quand on prend des décisions politiques. J'aurais tellement apprécié que nos politiques écoutent les parents.
C'était un peu l'objectif de la commission des 1000 premiers jours.
Oui, c'était l'objectif. Donc on représentait, on était 18, on représentait évidemment des communautés de parents et nous on les a interrogés, les parents. On a été un peu les témoins de la voix des parents. On nous a pas interrogés. Les politiques auraient pu interroger la commission des 1000 premiers jours qui a tissé des liens, on a tissé des liens entre nous et des liens extrêmement durables, hein, extrêmement intéressants. D'ailleurs, aujourd'hui, on a terminé un film documentaire, Les 1000 premiers jours, avec le docteur Boris Cyrulnik. Joséphine l'a vu la semaine dernière en avant-première à Arras.
À voir, absolument. À voir et revoir.
On a suivi 5 familles et leurs 6 bébés pendant 6 mois. Et puis on vient de terminer, j'ai posé le dernier mot hier soir au livre qui décrypte entre les séquences du film toutes les aventures que nous avons vécues ensemble. Il y a une matière extraordinaire à partir de l'observation des bébés, parce que les bébés nous renseignent beaucoup et nous renseignent à la Maison des Mille Jours, on les observe à partir de leur propre posture et leurs interactions. C'est très précieux d'observer le langage non verbal et d'écouter les bébés qui parlent et nous disent des choses d'une extrêmement précieux et d'interroger les parents parce que eux ils savent avec leur sincérité nous dire comment vont leurs enfants, comment eux ils vont et comment on peut les accompagner. Donc interroger la société civile, ouais, c'est super précieux.
En tout cas, sur ce chemin, ça pose aussi la question un peu des dogmes éducatifs, des débats qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les croyances, les connaissances. Ce que je disais dans mon introduction, en ce moment, j'entends énormément de parents qui sont extrêmement perdus, qui ne savent plus quoi faire, comment faire, qui croire.
Ouais, ça participe au mal-être et à la santé mentale qui se dégrade. Il y a des rapports très importants, notamment du Défenseur des enfants, sur la santé mentale des enfants, mais aussi la Cour des comptes, qui s'est penchée sur le sujet, et le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, mais aussi des rapports internationaux, je pense au rapport de l'UNESCO et de l'OCDE. De grandes personnes se penchent sur le sujet de la santé mentale, et ça résonne pas de la même manière dans tous les pays, mais en France, ça, voilà, il y a un impact qui est majeur. Et malheureusement, c'est un impact sur le long terme. Et ces débats assez délétères entre les partisans d'une éducation stricte et ferme, avec beaucoup d'injonctions que j'entends, et à côté de ça, des partisans d'une éducation très libre, il y a de l'intelligence collective au milieu, je peux vous rassurer. Il y a des gens qui réfléchissent et en lien avec les parents pour voir quelle serait cette position raisonnée en utilisant les données de la science, ce que nous disent les neurosciences notamment, parce que maintenant on a des connaissances très fines du développement du cerveau du bébé, déjà in utero, mais aussi du développement du cerveau des parents et des adultes. En utilisant ces ressources, on peut avoir une position médiane, raisonnée, et raisonnable et extrêmement intéressante qui va rassurer les parents. Par exemple, le time out. C'est super fragilisant de penser et d'agir. Et là, c'est plus que fragilisant. On abîme nos enfants en les mettant seuls, au coin, en fermant la porte. Un bébé seul n'existe pas. Ça a été dit depuis la nuit des temps, quasiment. Et réaffirmé par John Bowlby et tous ceux qui ont travaillé, le professeur Nicole Guedney, Antoine Guedney, sur les questions de l'attachement. On sait qu'aujourd'hui, un bébé, il est en détresse quand il est tout seul. À partir de 10 mois, c'est ce que j'ai lu dans la presse, mettre un bébé tout seul dans une pièce, il apprend le désespoir. C'est ce que nous dit le docteur Boris Cyrulnik. Il appelle, le parent ne vient pas le chercher. Seul, il n'existe pas. Il ne peut pas répondre à ses besoins, comme le disait Joséphine tout à l'heure. Il ne peut pas. Il n'est pas équipé. Son cerveau n'est pas équipé pour se dire « Ah, tiens, maintenant, je suis tout seul. Oh, allez, je vais regarder l'horizon. Je vais m'occuper avec un jouet. » Ses cerveaux ne sont pas connectés. Son cerveau émotionnel et son cerveau reptilien, le cerveau limbique, ne sont pas connectés avec le cerveau supérieur qui va l'aider à raisonner. Jusqu'à 5-6 ans, un enfant est en incapacité de réguler ses tempêtes émotionnelles. En incapacité, c'est physique, c'est physiologique, il ne peut pas. Donc c'est absolument antinaturel et destructeur pour le cerveau d'un bébé et destructeur pour la relation entre un enfant et ses parents de pratiquer le time-out. Ça, c'est une première chose.
Alors, peut-être j'aurais envie un petit peu de nuancer Nathalie, en tout cas de nuancer dans le sens que quand on est parent, qu'on sent que parfois une certaine violence monte, qu'on n'en peut plus, voilà, que peut-être occasionnellement en dernier recours, que peut-être il vaut mieux ça que autre chose, voilà, ou que voilà de s'emporter, ou que un coup parte, ou voilà, ça c'est aussi la réalité du terrain des parents et de ce qu'ils vivent. Je trouve que c'est tout l'exercice très difficile autour de ces questions-là, voilà, que c'est pas un outil qui est recommandé, qui a peut-être plein d'autres choses qu'on peut faire qui sont beaucoup plus constructives pour l'enfant, pour la relation, pour le parent, mais que ça peut arriver qu'on l'utilise en dernier recours dans certaines situations.
Un tiers de confiance est extrêmement utile à ce moment-là. Passer un coup de fil à un ami, ça fait beaucoup de bien.
Prendre un temps de pause, voilà,
se calmer soi-même,
d'isoler ses enfants, mais on peut s'isoler soi en tant que parent, aller respirer, boire un café, sortir, faire le tour du pâté de maison,
mettre son enfant dans une poussette et aller se balader. Le mouvement libre est très très important à ce moment-là. Dans les cas extrêmes, pratiquer le time-out, vraiment, vraiment, vraiment dans les cas extrêmes. Mais au quotidien, c'est absolument pas une posture à adopter en tant que parent.
Comment vous expliquez, Nathalie, parce que, voilà, comme on entend beaucoup de choses autour de ces questions-là en ce moment, qu'il y a un peu des guerres de chapelle chez les professionnels et que les parents sont un peu perdus pour les aider à s'approprier. Alors là, il y a ces connaissances scientifiques qu'on a, mais comment vous comprenez, vous, qui a encore ce regard très strict, l'enfant doit être soumis, bien élevé. Voilà, Héloïse Junier nous disait qu'on était, c'est vrai, un pays, beaucoup de conventions, on attend des enfants presque qu'ils soient des mini-adultes. Comment vous comprenez que ce regard-là, il persiste et que du coup, on se retrouve dans ces conflits dogmatiques autour de l'éducation?
Ouais, c'est vraiment ça, c'est du dogme et de l'idéologie, encore aujourd'hui. L'enfant, c'est pas un adulte en miniature. On le sait, les neurosciences nous le confirment. Et confirment des choses qu'on pressentait depuis très longtemps. Donc c'est pas une mode non plus, les neurosciences. C'est une évolution de la science et ça nous apporte des données extrêmement précieuses. En fait, tout est lié à la place de l'enfant dans la société. Et puis on a tous notre histoire, hein, l'histoire française. Quand vous regardez les peintures, quand vous lisez la littérature, l'enfant, pendant très longtemps... Je pense que ça change aujourd'hui, le regard change aujourd'hui. Mais ça prend 3 à 6 générations. Hein, ça a été le cas pour la Suède. Quand vous regardez la littérature ou les peintures, vous voyez des adultes en miniature, ils étaient habillés sous Louis XVI encore, et après, longtemps après, comme des adultes en miniature, engoncés dans des robes, des choses très très contraignantes, alors que le mouvement libre, on sait, est extrêmement, extrêmement nécessaire dans le développement des enfants. Donc c'est très visible dans notre culture et dans notre éducation. On croit qu'un enfant, il faut qu'il se tienne assis. D'ailleurs, l'école à 3 ans, c'est très très tôt pour un enfant. Il est encore tout petit à 3 ans et les professionnels le savent. Et d'ailleurs, ça atteint le sens de nos métiers de s'obliger à demander à un enfant de rester assis alors qu'on sait qu'il n'en est pas capable. Aujourd'hui, ces connaissances et notamment le rapport des 1000 premiers jours, qui est gratuit, hein, que vous pouvez télécharger sur le site du ministère des Solidarités, nous donne à voir un consensus scientifique qui a été chèrement acquis, mais un consensus scientifique qui nous permet d'avoir des connaissances accessibles sur le développement des enfants et la place des enfants dans notre société. On sait que l'enfant, il est tout petit pendant ses 1000 premiers jours. C'est à peu près du 4e mois in utero jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est une période de vulnérabilité et de promesse, en même temps la plus importante de notre existence. Et ça nous donne un signal que le bébé, il est tout petit et il avance à son rythme, et chaque enfant a son propre rythme. Et c'est pas la peine de tirer sur les feuilles des salades pour les faire grandir. C'est pas en tirant dessus qu'elles grandiront, c'est pas en accélérant le développement d'un enfant qui va mûrir dans des bonnes conditions. C'est au contraire en le laissant rester un enfant. Maria Montessori disait « le jeu, c'est le travail de l'enfant. L'enfant, c'est un chercheur. C'est d'abord un chercheur. Il a besoin d'expérimenter pour comprendre le monde. » laissons les enfants être des enfants, parce que sinon, on est dans une dimension de dressage. Mmh. Ce qu'on a fait pendant très très longtemps. Moi, quand j'étais petite fille, on me disait, voilà, tu mets tes doigts comme ça à table, mais c'est la première phalange, hein, c'est pas la deuxième. Et puis, tu mets pas tes coudes sur la table, surtout pas, parce que là, on aura bien dépassé la première phalange. Et puis surtout, tu parles pas. Hein, parce que d'abord, il y a la télévision devant, hein, elle parle, elle dit des choses importantes, la télévision. Et on sait qu'aussi, il faut se méfier de certains médias et renforcer notre pouvoir d'agir. Donc, c'est important d'enseigner le libre arbitre à nos enfants. Et c'est en expérimentant le monde, c'est en rassurant, en accompagnant les parents dans une posture horizontale qu'on arrivera à faire grandir notre société, en fait.
Alors, pour compléter ce que vous venez de nous partager, Nathalie, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour permettre aux parents ou les aider à trouver, retrouver, développer leur pouvoir d'action et d'agir ?
Ne pas être seul. Un parent, il a besoin de 6, 7, 8 personnes autour de lui, des tiers de confiance, hein, qui lui font confiance, qui dialoguent avec lui dans une forme d'intelligence collective. L'isolement, c'est un mal terrible. Donc déjà, ne pas être isolé, ça c'est très très important. Se faire du bien à soi pour faire du bien aux autres. Venir dans les maisons des mille jours qui sont ouvertes, qui sont gratuites, qui pratiquent l'universalisme, la mixité et le non-jugement. La bienveillance, évidemment, est de mise. Et on a tous à apprendre les uns des autres dans un cadre qui est fixé.
Où elles se trouvent, alors, du coup, les maisons des mille premiers jours, est-ce qu'il y en a partout en France? Comment on peut savoir s'il y a une maison des mille premiers jours à côté de chez soi?
La première est à Arras et on accueille Joséphine. Et puis, il en existe 13 autres qui composent en fait cette période pilote d'expérimentation. On relève les impacts, on regarde comment ça agit sur le développement de l'enfant, sur le devenir parent. Et le devenir facilitateur, parce que là, on est en train de créer un nouveau métier de facilitateur. Voilà, il y a 3 phases importantes. La première, c'est on s'inscrit dans un écosystème qui existe déjà. On installe ce maillon de la Maison des Mille Jours dans un lieu qui existe déjà, une PMI, une maternité, un centre social, un pôle éducatif, crèche-école, PMI comme à Arras ou ailleurs. C'est renforcer l'existant. Donc, on travaille avec les professionnels qui sont déjà sur le territoire et on maille le territoire et on fait connaître les services aux familles. Donc, on fluidifie et on rend plus accessibles les services aux familles quand c'est nécessaire, bien entendu. Et puis, on adopte une posture très horizontale, on partage ses connaissances, on est dans le non-jugement. C'est très, très important. C'est ce que décrivait Joséphine. On renforce, on essaye de renforcer le pouvoir d'agir. Donc il va y avoir d'autres maisons, il y en a une centaine qui sont en attente d'ouverture. On a créé un diplôme universitaire à l'Université de Lille, au CHRU de Lille, avec le professeur Storm, qui forme les facilitateurs et des professionnels des 1000 premiers jours. Et puis l'association forme 2 promos de 15 facilitateurs par an de 10 jours, avec une formation compressée pour des professionnels déjà aguerris et expérimentés. Parce que c'est important d'être expérimenté, d'avoir déjà cette connaissance de la relation avec le parent pour devenir un facilitateur dans ce cadre-là.
Et du coup, concrètement, parce que Joséphine nous a parlé des groupes de pères aidants, est-ce qu'il y a aussi des conférences, des ateliers, des entretiens individuels ou de couples qui sont proposés dans les maisons des 1000 premiers jours ?
Ça peut, si le besoin est là. En fait, on répond aux besoins du territoire. Si le service n'existe pas encore, on va pouvoir le proposer avec les facilitateurs de la maison des 1000 jours. Tout dépend de comment on s'inscrit sur un territoire, en fonction des besoins. Mais il y a des groupes à thème. Mais le cœur du métier, c'est une rencontre d'une heure et demie à peu près, 2 fois par mois, pendant la première année de vie de l'enfant et à partir de l'entretien prénatal précoce, parce que ce sont les sages-femmes qui indiquent aux familles que la maison existe et qui les orientent. Voilà. Et puis il y a des outils aussi. La série 10 mois, qui est en open source, qui est gratuite sur la chaîne YouTube. Et là, vous avez 50 vidéos de 2 minutes et chacune sur un concept très précis du quotidien du développement de l'enfant qui vient décrypter plein de choses sur le sommeil, l'alimentation, la relation, etc. Et le film des 1000 jours, le livre qui va bientôt sortir début novembre, et Odile Jacob, Le cherche-midi.
Merci beaucoup Nathalie. Pour conclure cet épisode, on a choisi toutes les deux un petit passage de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils sont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Merci beaucoup, Nathalie, pour tout ce que vous nous avez apporté. Alors, vous nous avez déjà donné des recommandations. Donc, le film, le livre. Évidemment, on communiquera sur nos réseaux lorsque le film passera à la télévision. Est-ce qu'il y a quand même d'autres choses que vous auriez envie de nous recommander? Évidemment, on va recommander le site de l'association Ensemble pour la petite enfance, voilà, sur lequel on peut retrouver aussi énormément d'informations, les lieux de toutes les maisons des 1000 premiers jours.
Moi, je félicite les parents d'être des parents, les professionnels d'être des professionnels, les enfants de garder, d'avoir leur vraie place d'enfant. Et merci beaucoup, Mathilde.
Merci, Nathalie.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Joséphine, en effet, pour votre témoignage. Et encore une fois, merci beaucoup, Nathalie Casso-Vicarini. Je rappelle que vous êtes fondatrice, déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance que vous avez créée en 2016. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante, podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.